Bonjour et bienvenue à Pas de mauvaise question. Aujourd'hui, nous allons au Papillorama à Kerzers, en Suisse. Papillorama est une fondation d'utilité publique où les visiteurs peuvent découvrir la beauté des papillons tropicaux, des oiseaux exotiques et des animaux nocturnes dans des habitats soigneusement recréés. À Papillorama, les visiteurs ont l'opportunité unique de se promener à travers des trois dômes tropicaux. Papillorama, les dômes des papillons, Nocturama, les dômes des animaux nocturnes et les dômes de la jungle. Chacun offre une expérience immersive, permettant aux visiteurs de se sentir transportés dans des différents écosystèmes. Que vous soyez des passionnés de la nature, un amateur des oiseaux ou simplement à la recherche d'une aventure unique en famille, Papillorama à Kerzers offre une expérience inoubliable pour tous les âges. Alors, si vous cherchez à vous émerveiller devant les splendeurs de la nature, restez avec nous, on va vous présenter ce magnifique endroit de la main de Nathalie Beuvet, guide et responsable des papillons. Bonjour Nathalie.
Bonjour et bienvenue au Papillorama.
Merci. Et avant notre visite, pourrais-tu nous parler de Papillorama?
En fait, la Fondation Papillorama existe déjà depuis plusieurs années. Ça a commencé dans les années 88-89. Et le but de cette fondation, c'est de faire découvrir aux visiteurs la diversité, la richesse de la nature à travers trois expositions tropicales, le Papillorama, le Nocturama et le Jungle Trek. C'est aussi de sensibiliser le public en fait, à cette biodiversité, à cette richesse naturelle qui est entre nos mains et qu'il faut qu'on protège. Et donc un autre rôle également, c'est la protection de la nature, c'est de sensibiliser. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Papillorama possède une réserve naturelle au Belize qui s'appelle Chipsterne, dont on a fait une petite copie ici avec le Jungle Trek. Papillorama Auvert était installé d'abord à Marin, et puis a déménagé ici en fait à Kerzers pour avoir un petit peu plus de place pour pouvoir faire cette troisième exposition sur le Jungle Trek. Mais également en fait on a un projet qui s'appelle Papillorama 2030 avec différents projets au sein de ce grand projet pour nous agrandir avec des nouvelles installations, des nouvelles expositions aussi qui vont apparaître avec le temps, mais vraiment toujours dans ce but de sensibiliser et de protection. Beaucoup, malheureusement, des animaux ou des insectes sont extrêmement menacés à l'heure actuelle et manquent d'habitat. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est vraiment notre but principal de faire ces deux choses. Là, nous nous trouvons à côté de la réception et devant nous, il y a une petite volière avec des ouistitis, pygmées, qui sont en train de jouer, on les voit, ils sont en train d'observer un petit peu autour d'eux, en train de manger aussi. Ils sont vraiment des tout petits singes, très discrets, il faut prendre le temps de bien observer où ils sont. Avec eux, il y a également un tatou, beaucoup plus discret, qu'il faut aussi beaucoup patienter, des fois passer plusieurs fois pour pouvoir le trouver. Alors en fait, c'est un animal qui peut un peu s'enterrer dans le sol ou des fois on verrait qu'un petit morceau de la carapace ou même pas du tout tellement il est bien caché. Donc là, on va se diriger vers la toute première exposition, le Papillorama, qui est un jardin à papillons avec des papillons tropicaux. Ils sont partout autour de nous dans cette exposition. Et comme ce sont des papillons tropicaux, en effet, c'est un endroit où il fait toujours chaud, même pendant l'hiver. Donc en fait, dans ce jardin, c'est un mélange de papillons des trois régions. On a des papillons d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. Comme pays, on pourrait citer Philippines, Malaisie, ou bien le Kenya ou le Costa Rica. Et en fait, ici, il y a plus de 1200, enfin, il y a entre 1200 et 1500 papillons qui vivent.
Est-ce qu'il y en a des qui, si on les touche ou comme ça, ils sont venimeux ou comme ça?
Alors, c'est vrai qu'en français, il y a toujours une petite confusion entre venimeux et vénéneux. Alors, il n'y a aucun papillon qui est venimeux. Quand on dit venimeux, c'est des animaux qui vont piquer, par exemple, pour transmettre du venin, comme certains serpents ou certains raies aussi. Alors que vénéneux, c'est en fait si on commençait à vouloir manger ces animaux, là, il y aurait des substances toxiques dans leur corps. Et donc, en fait, pour les papillons, il peut en avoir certains qui sont vénéneux parce qu'il y a des chenilles, en fait, parce que c'est seulement les chenilles qui se nourrissent des plantes, des feuilles. Et en se nourrissant de ces feuilles qui sont toxiques, deviennent, en général, la chenille devient en général toxique. Et c'est transmis des fois jusqu'au papillon. Proche de l'entrée, on peut voir différentes fenêtres avec des chrysalides qui font partie du cycle de vie des papillons. D'ailleurs là, dans ces différentes fenêtres que naissent la plupart de nos papillons. En effet, dans le jardin, il peut y avoir des chrysalides. En fait, ce qui se passe dans le jardin, c'est tout ce qui est naturel. C'est la reproduction naturelle. Et en général, on ne touche pas ce qui se passe dans le jardin. Même la plupart du temps, on ne voit même pas ces chrysalides. Elles sont autour de nous, mais on ne les voit pas. Alors qu'en fait, celles qui sont derrière les fenêtres sont des chrysalides qui viennent d'élevage durable et qu'on reçoit régulièrement.
Comment elle s'est créée, la chrysalide?
Alors, en fait, il faut prendre un petit peu avant avec la chenille. Donc, la chenille, pour atteindre sa taille, on va dire adulte, elle va muer plusieurs fois. Donc, elle va changer de peau. Et lors, en fait, de la dernière fois, elle va avoir cette peau dure qui va apparaître autour d'elle. Généralement, avant, elles vont commencer à moins manger. Elles vont faire une petite pause. Et c'est vrai que certaines chenilles, elles se suspendent même la tête en bas, sous une feuille. Et c'est là, on voit vraiment tout le mouvement qui fait apparaître finalement la forme de la chrysalide finale.
Comment les chenilles, elles se créent?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec les papillons, il y a des hommes et des femmes papillons qui s'accouplent. Et après, quand ils se séparent, les femelles, elles vont pondre des œufs sur une plante. Et c'est dans cet œuf, en fait, que se crée la chenille. Puis qui va sortir de cet œuf et commencer à se nourrir. D'abord de la coquille de l'œuf avant de commencer à manger les feuilles qui l'entourent. Et puis là, elle va grandir de plus en plus pendant son temps de développement.
Elle s'est posée sous le métro.
Est-ce qu'il y a des papillons, on voit des disparitions?
Alors, oui. Ça, c'est sûr qu'il y en a qui sont en voie de disparition. Parce que les papillons, ils font partie des insectes et dans le monde, il y a énormément d'insectes qui deviennent maintenant menacés par ce que fait l'homme finalement. Il faut imaginer que pour les papillons, ils sont très dépendants des plantes, que ça soit les chenilles pour se nourrir ou bien les papillons pour se nourrir également. Et par exemple, avec les pesticides ou les monocultures, ils vont pas forcément trouver exactement ce qu'il leur faut pour pouvoir se reproduire ou pouvoir se nourrir. Ou des fois leur habitat ou leur ligne d'habitat est coupée parce qu'au milieu il y a autre chose que les bonnes plantes qu'ils ont besoin.
Ça, c'est un joli papillon.
Après, dans le jardin, à différents endroits, il y a des plateaux avec des assiettes. C'est des endroits où les papillons peuvent venir se nourrir. Parce que la principale source de nourriture en fait, des papillons, c'est des choses qui sont liquides. Il ne faut pas oublier que les papillons, ils n'ont pas de dents. Ils ont simplement une trompe et donc ils peuvent se nourrir généralement du nectar qu'on trouve dans les fleurs. Mais c'est vrai que dans un jardin comme ici, avec autant de papillons, pour s'assurer que tout le monde ait suffisamment de quoi manger, on met ses assiettes avec des petits puits qui contiennent aussi du nectar. Et après, il y a certains papillons qui aiment bien le jus de fruits, d'où les fruits qui sont également présents sur ces assiettes. Et avec les papillons, il y a aussi d'autres animaux qu'on peut observer, des tortues. Il y a aussi des oiseaux à différents endroits. C'est les deux tortues, c'est des tortues de Saint-Hilaire. C'est des tortues qui vivent plutôt dans l'eau, qui peuvent quand même sortir. Et la particularité, c'est souvent dans les histoires avec les tortues, on a l'impression qu'elles peuvent toutes rentrer la tête, puis les pattes dans la carapace pour se protéger, alors que celle-ci, c'est pas le cas. Après, ce qu'il faut que je précise, c'est que tous les autres animaux qui sont avec les papillons ne mangent pas de papillons. On n'a pas de prédateurs ici, ce qui fait que les papillons, ils peuvent vivre plus longtemps ici qu'en réalité dans la nature. Après, dans le jardin, il y a aussi beaucoup d'arbres fruitiers. Il y a différents endroits avec des bananiers. Et en fait, les feuilles des bananiers ont l'air énormément mangées. Et ça, c'est parce qu'il y a un papillon qui se reproduit justement sur les feuilles de bananiers. Et les chenilles vont s'occuper de manger ces feuilles, ce qui laisse des fois très peu de place pour la feuille en elle-même qui va plus avoir grand-chose. Et à côté de ça, on peut voir qu'il y a un régime de bananes.
Juste en haut.
même deux. On a derrière aussi un troisième. Il y a même trois régimes de bananes aujourd'hui. Donc là, on est arrivé, il y a des oiseaux qui sont sur le sol. En fait, il y a toute une famille. C'est des rouloules couronnées. En fait, le mâle, il est de couleur un peu plus, on pourrait dire quand même plus sombre, à part qu'il a une petite couronne sur la tête un peu rouge. Et en fait, avec lui, il y avait sa femelle, plutôt verte, et il y avait un tout bébé qui se promène avec eux. Et puis à côté de ça, là, on est arrivé vers des oiseaux bien plus grands que les rouloules couronnées, qui sont des gourras de Victoria. On peut également appeler les pigeons de Victoria. Et en fait, ce sont les plus grands pigeons du monde. Ils ont une jolie crête, une couronne de plumes sur la tête avec des yeux rouges. Ah bah là, par exemple, on est arrivé à un endroit où il y a une chenille. Donc là, on en a une toute grande. On voit que l'arbre, il n'a plus beaucoup de feuilles. On a aussi tout plein sur les feuilles qui restent. Et surtout, on va arriver à un endroit très intéressant. On va arriver où il y a un des plus grands papillons du monde. Et puis le plus grand qu'on peut avoir ici, c'est le papillon Atlas. Et c'est un papillon qui ne vit malheureusement pas très longtemps parce qu'il n'a pas la chance d'avoir une trompe qui lui permette de se nourrir. Donc il vit seulement 5 jours. Donc on n'en a pas tout le temps. C'est des fois au petit bonheur qu'on vient ici. Alors en fait, pour ce papillon, c'est pas tout à fait une chrysalide, mais c'est un cocon. Les cocons, c'est en fait la chenille, elle tisse un tissu de soie qu'on appelle le cocon de soie. Et c'est une fois que tout cet extérieur est fait que la chenille se met en chrysalide à l'intérieur.
Combien il mesure ?
Alors le papillon Atlas, si on mesure avec les ailes ouvertes, c'est généralement jusqu'à 25 cm, parfois un peu plus. Alors c'est vrai que pour les chenilles, en fait, la plante sur laquelle elles sont est généralement très importante. Si on veut avoir de la reproduction avec les papillons, il faut qu'il y ait la plante hôte de disponible. Et là, par exemple, nous sommes à côté d'une chenille du papillon hibou, qui normalement sa plante hôte est les feuilles de bananier. Mais il est possible qu'en fait, au moment où elle a atteint sa taille un peu maximale, et puis qu'elle cherche un endroit pour se mettre en chrysalide, qu'elle va sur une autre plante. Et là, en l'occurrence, elle est passée sur une broméliacée, une de ces plantes qui récolte l'eau un peu au centre. Et puis ça, c'est vraiment une très très grande chenille. On arrive bien à comprendre pourquoi les feuilles de bananier sont dans cet état-là. Alors, l'autre chose aussi qui est intéressante avec les chenilles, c'est qu'en fait, il ne faut pas oublier que les insectes, en général, ils ont 6 pattes. Et les chenilles aussi. Les chenilles ont 6 vraies pattes. Et toutes les autres qu'on voit, en fait, c'est des fausses pattes qui servent juste pour elles à se tenir aux feuilles et puis à l'aider à se déplacer, mais ça ne compte pas comme des vraies pattes. Après, ce qui est aussi intéressant, on parlait des papillons menacés. Avant, et en fait il y a ce papillon orange qui est là, c'est le papillon monarque, c'est le papillon qui est en fait connu en Amérique pour faire sa migration du Canada jusqu'au Mexique. Donc c'est sa manière à lui en fait d'hiverner, c'est vraiment, il part en direction du sud pendant l'hiver, et ce papillon il est devenu très très menacé, justement il a apparu sur une des listes des animaux menacés. Mais c'est la même chose en Suisse. En fait, il y a des papillons qu'on appelle la belle dame ou le vanesse des chardons qui partent pour l'Afrique pendant l'hiver. À côté de ça, ici, il y a aussi une autre chenille. Donc cette chenille, elle est un petit peu spéciale. Elle n'est pas très jolie à regarder. En fait, elle ressemble à un caca d'oiseau. Mais il ne faut pas oublier que, justement, dans les prédateurs des chenilles, il y a les oiseaux. Donc comme ça, ça ne donne pas envie d'être mangée. Puis elle pourra rester tranquille. Et l'autre chose qui est intéressante, si on l'embête, c'est qu'elle peut sortir en fait 2 cornes au niveau de sa tête qui sont oranges. Et en même temps, ça sent très mauvais.
Il y a des papillons trop beaux, bleus, trop beaux. Regarde, tu vois ce papillon-là qui vient de, qui ouais, vole là. Le bleu, bah, il j'en ai dans la chambre.
Dans ma chambre, mais pas des vrais, hein, mais des en autocollants.
Waouh!
Pour ceux qui ne savaient pas, il y a des bananes. Oh, il y a des bananes.
Des vertes. Bananes, des petites bananes vertes.
Oh, t'as vu, il est en train de faire caca.
Oui.
Il est en train de faire caca. Il y a un énorme papillon qui ressemble à un œil.
Ouais, il y a des magnifiques papillons. Oh, le gros. Il y en a un gros avec des yeux trop bizarres. Oh, ils sont en train de s'accoupler. Il y en a un qui va couper.
Voilà, là on va ressortir du papyrama pour se diriger vers la deuxième exposition. C'est une exposition à l'intérieur de laquelle il fait nuit.
Silence. Venez, il y a un paresseux.
Et on aperçoit aussi un paresseux en train de dormir en haut d'une branche. Et donc des fois ils sont tous sur l'île, des fois ils sont ailleurs. Donc c'est possible de pas tout de suite le voir.
Non.
Après, avant, je disais que sur l'île, vous pouvez avoir des paresseux, mais en fait, pourquoi je parle d'île, c'est que tout autour, il y a un terrarium avec de l'eau. Il fait tout le tour, ce qui fait vraiment qu'il y a comme une île au centre. Et là, il y a dans ce bassin différents poissons. Il y a par exemple des raies, des pacous noirs qui sont là. Et là, vraiment, tous les poissons qui sont visibles, ce sont des poissons d'eau douce. Donc, il existe des raies d'eau douce. Et en fait, les raies qui sont là, qui sont d'eau douce, en fait, elles sont venimeuses. Il y a ce fameux dard, en fait, sur la queue, si on devait leur marcher dessus, qu'elles peuvent nous planter dans le pied. Après, en continuant notre chemin depuis ici, on a d'un côté, on peut observer des singes de nuit qu'on appelle aussi les Dourukuli. Des fois ils sont un petit peu timides, ils se cachent. On voit des fois juste sauter à la dernière minute. Et puis en fait en face des singes de nuit, il y a de nouveau des coandous préhensiles qui sont là. Il y a toute une petite famille. Des fois on peut les observer sur le sol, des fois ils sont sur les branches. On aperçoit il y en a un tout jeune qui est juste là. Et là, en fait, on va changer de continent, on va aller vers une autre espèce, qui sont des rats des nuages. C'est des animaux plutôt des Philippines. Donc, on a plusieurs, ils sont tous un petit peu différents, ils aiment bien jouer un peu entre eux. En fait, l'animal qu'on a sous les yeux, c'est un oryctérope, c'est un animal d'Afrique. Et il est en train de creuser en ce moment. Et en fait, l'explication, c'est si on l'observe dans la nature, c'est un animal qui est nomade. C'est un animal qui change de lieu pour pouvoir vivre régulièrement. On dit qu'il change de lieu à peu près tous les 2-3 nuits. Et donc, le plus simple pour lui, c'est de pouvoir creuser sa petite maison, son petit terrier. Et donc, il creuse très très vite. C'est la raison pour laquelle il creuse. Voilà, justement, là, on arrive vers ces différents terrariums. Là, les deux premiers, c'est sur les mygales, où on a aussi des rainettes, des kinavalu, ou bien qu'on appelle aussi des grenouilles lait. On a aussi des plus petites de ce côté-là. Ce qui est intéressant avec cette espèce, c'est vrai qu'en général, quand on pense à des grenouilles, on pense plutôt à des amphibiens qui vivent dans les étangs. Alors qu'en fait, les rainettes, même les rainettes vertes qu'on a en Suisse, qui sont devenues plutôt rares, sont généralement dans les branches, ils sont en hauteur. Ils sont comme des ventouses au niveau de leurs pattes qui leur permettent de grimper. Voilà aussi des grillons par exemple ici. Donc là on est plus ou moins au niveau du restaurant qui est juste au-dessus de nous. Et puis là c'est les écureuils avec les trois qu'on peut voir depuis le restaurant en haut. Là aussi les mantes, et puis là les différentes espèces de phasmes. Un peu de différentes couleurs, de différentes tailles, de différentes formes. Donc là, on est ressorti de la station d'élevage, on est repassé à côté des oryctéropes. Et maintenant, on va passer dans notre ancienne grotte aux chauves-souris. Là, on arrive, on entend bien le bruit de l'eau, puis en fait, on est vers des poissons qu'on peut dire qui ont perdu, en fait, c'est des poissons qui sont aveugles, qui ont perdu leurs yeux, comme ils vivent dans des grottes, dans des zones très sombres. La nature fait en sorte que s'il y a des choses qui sont inutiles avec ou qui sont devenues inutiles avec le temps, certains animaux vont les perdre. Par exemple, comme les fourmiliers qui n'ont plus besoin de dents. Ils ont plus ces dents, mais ils ont à la place une longue langue pour leur permettre de se nourrir.
Ma question, c'est est-ce qu'il est toujours là, le serpent? Et puis s'il est là, combien de mètres il mesure?
Et oui, on en a dans le Nocturama. On a deux boas constricteurs. Donc ce sont des serpents qui ne sont pas venimeux, mais par contre, il faut quand même faire attention avec eux parce qu'ils ont beaucoup de force. Et les deux, ils font plus de 2 mètres.
Est-ce que vous le nourrissez?
Alors moi, personnellement pas, mais les gardiens d'animaux, oui. Mais c'est pas tous les jours. Contrairement aux autres animaux comme les chauves-souris, il faut leur donner à manger tous les jours. C'est pas le cas des serpents, donc c'est plus ou moins une fois par mois.
Heureusement, parce que ça fait un peu peur.
Alors, on va se diriger vers la troisième exposition, celle qu'on nomme le Jungle Trek. En fait, c'est une exposition sur notre réserve naturelle au Belize, Chipserne. Comme j'ai dit durant la présentation, en fait, le but de la fondation, c'est de pouvoir à la fois faire découvrir des animaux et des plantes pour sensibiliser les visiteurs, mais également de faire du travail actif de protection de la nature. Et là, en fait, cette exposition, c'est un moyen de montrer en fait un peu ce qu'on fait sur place. Voilà, alors on est entré maintenant dans la troisième exposition, le Jungle Trek. Donc c'est vraiment comme une copie de la réserve naturelle de Chipserne qu'on a menée ici. D'ailleurs, pour nous, c'est vraiment un projet qui était très important d'avoir cette réserve pour vraiment faire quelque chose directement d'actif. On aide aussi en fait là-bas sur place à ce qu'il y ait des corridors naturels qui se forment entre les différentes réserves naturelles du pays. Et c'est une exposition qui peut montrer à la fois la richesse ici des plantes, mais également des animaux. Donc, il y a des animaux en liberté. Juste au-dessus de nous, par exemple, il y a des oiseaux roses, qui sont des spatules rosées, avec des becs qui ressemblent à des spatules ou à des cuillères. Alors c'est vrai qu'ici, il faut essayer de regarder vraiment partout autour de soi. Des fois, les oiseaux sont au-dessus de nos têtes, des fois, il y a des plus grands, des plus petits. Il peut y en avoir des qui sont très, très discrets, comme le héron des mangroves, qui est juste là-bas. Qui est vraiment très, très discret et qui pourrait être à côté de nous sans qu'on s'en rende compte. Mais c'est aussi ça, finalement, se balader dans la nature. C'est comme si on veut aller en forêt chez nous, qu'on veut voir des animaux. Il faut prendre le temps.
Est-ce qu'ici, il y a des serpents?
Non, alors le seul endroit où on a des serpents, c'est dans le Nocturama.
Est-ce qu'il y a des rats?
Non, alors pas dans celui-ci. Avant, au Nocturama, il y avait ce qu'on appelle les rats des nuages, les phloemis du nord de Luzon, mais pas ici.
Combien d'espèces de oiseaux il y a?
Alors ici, il y a une dizaine d'espèces différentes. Alors là, on continue de se balader un peu à travers la végétation. On voit qu'il y a différentes sortes de palmiers, il y a différents arbres. Ah bah voilà, on approche de notre grande mascotte. En fait, il y a notre couple de toucans qui sont là tous les deux sur des branches. On est en hauteur, il fait un peu plus chaud. Mais ça peut permettre de se rendre compte de la grandeur des feuilles de palmiers, par exemple. Et parmi le projet Papyrama 2030, c'est aussi prévu que le toit il y aille un peu plus haut pour que les arbres aient encore plus de place. Voilà, le héron qui est juste là. Aussi une tourterelle. On a aussi un cardinal rouge, c'est le mâle qui est très très coloré. À différents endroits, il y a des petits panneaux qui disent un peu les utilisations possibles des arbres, les plantes, l'écorce. Et en fait là, on se trouve à côté d'un arbre qui s'appelle le sapotillier ou bien l'arbre à chicle. C'est en fait un arbre qui a une sève un petit peu blanche, qui s'appelle justement la chicle. Et en chauffant cette sève, ça donne des chiclettes naturelles. Autrement dit, les chewing-gums. Et en même temps, ce sapotillier, il a des fruits que les toucans aiment bien manger. Donc voilà, on est redescendu. Et puis maintenant, on va regarder un petit peu sur les côtés de ce dôme. Ou dans l'arbre, on peut voir, il y a un tamandois. Ou bien, il y en a même un sur le sol qui se balade gentiment. Un animal très drôle à regarder, à observer. Un petit peu maladroit quand même, des fois. C'est vraiment, eux, ils ont vraiment que la longue langue pour se nourrir, en fait, des fourmis et des termites. À côté de ça, moi, je trouve que c'est un animal dont les humains devraient prendre un peu plus d'exemple. Parce que ils ont beau se nourrir des fourmis et des termites, s'ils trouvent une fourmilière ou une termitière, ils vont pas tout détruire pour tout manger d'un coup. Ils vont savoir prendre juste ce dont ils ont besoin. Et ensuite, comme ça, le lieu en fait, a le temps de se remettre de ses émotions, a le temps de se reconstruire. Et ensuite, il peut revenir un peu plus tard pour se resservir de nouveau un peu. Hop, une petite acrobatie. Alors là, on est arrivé vers un lieu où ça sent un peu plus fort. Les pécaries à collier, qui ont un peu l'apparence finalement des sangliers, qui sont bien actifs pendant la journée. Et puis là, on arrive aussi vers les ratons crabiers, où mon collègue a installé, je pense, avant la balle. Donc des fois, vraiment, on leur cache la nourriture pour les faire jouer. Des fois, c'est des gourdes où ils doivent les tourner. Ah, on voit de nouveau les altoucans qui est juste là. Et on finit le tour du Jungle Trek. On arrive un petit peu dans une petite exposition à quelques images. Par exemple, qui raconte que la visite de Chipstern, elle est visitable. On pourrait se rendre au Belize pour aller la visiter. Et aussi, le thème le plus important, c'est par rapport à la disparition des forêts tropicales. C'est un grand sujet. C'est vrai que beaucoup de ces animaux qu'on a ici, en fait, c'est des ambassadeurs d'habitats, malheureusement, qui disparaissent. Certains arrivent à vivre seulement dans des réserves naturelles. Et là, ça retrace un petit peu sur les murs les raisons de cette disparition. C'est un problème qui est très compliqué parce qu'il y a plein de choses qui interviennent dedans. Il faut vraiment qu'on apprenne à prendre soin de ce qu'on a.
Merci Nathalie et à toute l'équipe pour votre accueil chaleureux de cette visite guidée. Votre passion pour Papillorama est palpable et nous avons été ravis de découvrir cet endroit magique en votre compagnie. Et à nos chers auditeurs, ne manquez pas l'opportunité de visiter Papillorama et de vous émerveiller devant la beauté et la diversité des espèces présentées. Et surtout, n'oubliez pas, il n'y a pas de mauvaises questions.
Pas de mauvaises questions.
Et voilà, l'émission elle est finie, mais je suis de retour juste pour vous informer que Papillorama nous fait l'honneur de vous offrir l'opportunité de gagner 2 entrées gratuites aux 2 premiers auditeurs ou auditrices qui nous écrivent à l'adresse mail de la radio. Alors, si tu veux obtenir un de ces 2 entrées gratuites pour visiter Papillorama ou bien pour l'offrir à quelqu'un, n'hésitez pas à nous écrire un mail à contact@noharm-rad.io. Et merci de nous avoir écoutés. À tout bientôt.
No Harm Radio.
Cuando yo era niño de ti me enamoré y desde este momento en ti yo solo pensé. Crecía pensando en este día que tú conmigo vendrías a vivir la vida mía. Pero después te fuiste a otro país vivir y yo no sabía ni a dónde escribir. Ahora juntos de nuevo no me dejes así con el corazón ardiendo, no me dejes mami. Yo quiero amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Amor pa' mí, amor pa' mí. Todo lo que yo quiero es amor pa' mí. Amor pa' ti, mami, amor pa' ti. Todo lo que yo tengo es amor pa' ti. Con nadie yo voy libre corazón, el sargento viene pregonando. Libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón y todo el mundo tiene que ir. Libre corazón para acabar con el odio. A libre corazón pa' que tiren armas al fuego. A libre corazón, boom, te lo digo, mami. Libre corazón, el sargento viene pregonando. Libre corazón, yo ya sé lo que digo, te lo tienes bien sabido. En nombre a libertad del militar mata a su hermano. Si en nombre a libertad del militar mata a su hermano, el derecho de ser humano es de ser un gusano, que por más pájaro que él tendrá que ser comido. Yo ya voy, yo ya sé, yo ya quiero.